Le message que vous allez écouter est tiré de la série d'études de la Bible intitulée « L'Église secrète » du Dr David Platt, pasteur de l'Église Brook Hill aux USA.
L'Église proclame l'Évangile à la lumière des objectifs de Jésus. Cela résume ce que nous avons déjà parlé. Nous sommes des adorateurs et des témoins. Et je veux souligner et mettre l'accent sur cette image. Témoigner, c'est la proclamation de l'Évangile. L'Esprit est en nous, afin que nous puissions parler. Ouvrez votre Bible à Actes 2. Vous voyez ces endroits dans l'Ancien Testament, quand l'Esprit est sur les prophètes, et quelquefois d'autres personnes aussi, et ils parlent. Le Seigneur est avec moi pour proclamer. Et une expression courante dans l'Ancien Testament. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Nombre 11, verset 29. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça sa sentence et dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. » Nombre 24, les versets 2 à 4. L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi et sa parole est sur ma langue. 2 Samuel 23, 2. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi. Il me dit, « Dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël. Est-ce qu'il vous monte à l'esprit ? Je le connais. » Ézéchiel 11, verset 5. C'est ce que l'Esprit vient faire. Et puis, vous arrivez à Joël 2, et vous voyez qu'une bonne partie du sermon de Pierre vient de Joël 2. Ainsi, dans Actes 2, verset 14, Pierre se lève et élève sa voix pour s'adresser à eux. Il commence à prêcher le premier sermon chrétien, et il se met au verset 16, il dit « C'est ce qui a été prononcé par le prophète Joël ». Et puis, il commence à citer dans le verset 17 de Joël 2, 28 à 32. Et il arrivera, après, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions, même sur les serviteurs et les servantes en ces jours. Je répandrai de mon esprit et je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, le sang et le feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura ceux qui échappent, comme l'Éternel l'a dit, et parmi les survivants sont ceux qu'il appelle l'Éternel. Joël 2, 28 à 32. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vous invite à évaluer le sermon de Pierre. Je veux que nous voyons s'il a bien cité le passage. Nous allons commencer par Pierre, acte 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Bon, arrêtons-nous un instant. A-t-il raison ? Eh, il arrivera après que je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Joël 2, verset 28. Oui, c'est assez proche. « Et vos filles et vos filles prophétiseront. » Acte 2, 17. C'est bon. « Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Acte 2, 17. « Et vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens. » Joël 2, 28 à 32. Eh bien, il mélange un peu, mais ça passe quand même. Au verset 18, il dit, « Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Acte 2, 18. « Même sur mes serviteurs comme sur mes servantes, dans ces jours, je répandrai de mon esprit. Joël 2, 28 à 32. Attendez une seconde. À la fin du verset 18, Pierre dit « Et ils prophétiseront ». Et à la fin de Joël 2, 29, « Nous ne voyons pas, ils prophétiseront ». Puis il continue « Des prodiges dans les cieux et sur la terre, le sang et le feu et des colonnes de fumée ». Bon, Pierre a juste ajouté une phrase. En bref, il peut sembler que Pierre est complètement foiré. Mais peut-être veut-il nous dire quelque chose. Quand Pierre dit « Ils prophétiseront », en ces jours, je vais donner mon esprit à ces gens et ils prophétiseront. Il y a une différence entre Joël 2 et Acte 2. Réfléchissez avec moi. Dans Joël, dans l'Ancien Testament, seulement quelques personnes étaient prophètes. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël et d'autres avaient la responsabilité de proclamer la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit descend dans les Actes. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et dans le Nouveau Testament, beaucoup de gens sont prophètes. Toutes les personnes qui ont confiance dans le Christ sont des prophètes. Est-ce que vous vous rendez compte que le privilège qui a été réservé à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Joël, et quelques personnes comme ça dans l'histoire de l'Ancien Testament, est un privilège que chacun d'entre nous peut expérimenter en tant que disciple de Christ. Nous sommes les prophètes. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que nous devons sortir avec des croix en néon orange dans la ville et prêcher un message? Tournez-vous vers Dieu ou brûlez! Qu'est-ce qu'un prophète fait? Un prophète parle pour Dieu et chaque disciple du Christ dans ce monde a l'Esprit de Dieu en lui. Il vous fait confiance et veut que vous parliez de lui aux gens dans la ville, communauté où vous êtes, aux gens des nations. Je viens avec la parole de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a payé le prix pour le péché. Tournez-vous vers lui et ayez confiance en lui et vous serez sauvés. Vous pouvez parler avec la pleine autorité de Dieu, de l'Esprit de Dieu et voir la parole porter du fruit. Oui. C'est le but. Je veux que nous regardions rapidement 8 passages dans l'Évangile selon Luc et le livre des Actes. Si vous vous souvenez, Luc est l'auteur de l'Évangile de Luc et aussi du livre des Actes. Faites attention à l'expression « rempli de l'esprit ». Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Ce sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Luc 1, les versets 13 à 15. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers la montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Luc 1, 39 à 42. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. » Luc 1, les versets 67 à 69. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit le donnait de s'exprimer. Acte 2, les versets 2 à 4. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit « Chef du peuple et ancien ». Acte 4, verset 8. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. Ananias partit. Lorsqu'ils furent arrivés dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et, après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Acte 9, les versets 17 à 20. Mélias, le magicien, c'est ainsi que se traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit : Toi, qui est plein de toute ruse et toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur sera sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Acte 13, les versets 8 à 11. Chaque fois que vous voyez la phrase « remplie de l'Esprit » et les relier à la proclamation de la parole, « L'Esprit est en nous, oui, il est en nous pour nous consoler, oui, il est en nous pour nous donner des cadeaux, l'Esprit est en nous pour faire beaucoup de choses différentes, nous convaincre, nous guider, nous diriger. » Ne manquez pas ceci, l'Esprit est en vous, pour vous permettre de parler de Jésus, et c'est le but principal de la présence de l'Esprit en nous. Ô mon Dieu, pardonne-nous pour notre façon d'agir en essayant de retourner à l'image donnée par l'Ancien Testament, souvent notre façon de jouer à l'Église et de dire « Eh bien, le pasteur est le prédicateur. Nous avons quelques personnes qui sont des orateurs. » Nous amènerons tout le monde à écouter ces personnes. Non, non. Si l'Évangile doit se répandre dans votre ville, ce n'est pas par une foule de gens qui viennent dans ce bâtiment pour entendre un pasteur. L'Évangile va se répandre dans votre ville quand vous, les membres de votre famille, de la foi témoigneront par le pouvoir de l'Esprit de Dieu en tant que prophètes de Dieu. Quand ils se répandront sur toute la ville pour parler aux gens de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La façon dont l'Évangile doit se répandre dans votre communauté et dans les nations n'est pas par quelques pasteurs sélectionnés ou quelques missionnaires qui viennent montrer une vidéo, les mettant sur un hologramme s'ils sont vraiment inventifs ou créatifs, puis faire le travail. Non, chacun de vous, si vous connaissez le Christ, vous avez l'Esprit en vous. Vous avez l'Esprit en vous. Ce n'est donc pas juste quelqu'un d'autre. Dieu vous a mis là où vous travaillez et où vous vivez pour une raison, pour que vous parliez de lui. C'est ainsi que l'Évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'image que je veux laisser en vous. L'Église proclame l'Évangile par obéissance au dessein de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. C'est un plan qui se déroule dans le reste du livre des Actes. À Jérusalem, dans Actes 6, 7, l'Évangile commence à être prêché dans la Samarie, la parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait partout à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Dans Acte 8, l'Église, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, est en paix et se construit. Saul approuvait le meurtre d'Étienne et il eut Ce jour-là, une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Acte 8, 1 à 5. Dans Acte 9, c'est à Rome. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, 31. À la fin de Acte 28, l'Évangile va jusqu'aux extrémités de la terre. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens. Eux, ils l'écouteront. Lorsqu'ils eurent dit cela, les Juifs s'en allèrent, en discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers au domicile qu'il avait loué. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute assurance et sans empêchement. Acte 28, 28 à 31. Ainsi, dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis sa bénédiction pour toutes les nations. C'est l'image de la tour de Babel. Toutes ces différentes langues sont créées. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Sinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés sur la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. L'Éternel dit, « Voilà, un seul peuple. Ils parlent tous un même langage, et voici ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres, l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. » Genèse 11, les versets 1 à 9. Puis, dans Genèse 12, Dieu dit, « Abraham, je vais vous appeler, et vous allez être une bénédiction pour tous ces différents peuples et pour tous ces différents langages. » Et nous voyons le fruit dans Acte 2. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. » Genèse 12, les versets 1 à 3. Toutes ces différentes langues sont ici, et l'Évangile va être proclamé à tous. Un jour, chaque tribu et peuple et langue se rassemblera autour de son trône et chanteront ses louanges parce que l'Église évangélise. C'est le but de l'Église, partager la bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Dieu est prêché à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Matthieu 28, 19. Après cela, je regardais. Et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau !» Apocalypse 7, les versets 9 à 10. L'Église baptise. Deuxièmement, l'Église baptise. Qu'est-ce qui se passe quand la bonne nouvelle est proclamée, quand les gens croient et sont appelés par la grâce de Dieu, l'Église baptise. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 hommes, Actes 2, 41. Nous voyons cela dans le reste du livre des Actes. Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Actes 10, 48, Actes 19, 5 dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fondation. On s'attend à ce que chaque disciple du Christ dans le livre des Actes soit baptisé dans le cadre de son identification avec le Christ. Tel est le fondement. Nous en avons déjà parlé. Nous sommes les bénéficiaires d'une nouvelle alliance et le baptême est une déclaration que nous appartenons à Jésus. Regardez en arrière dans Actes 19 et Actes 10 et vous lisez « Ils ont été baptisés au nom du Christ, au nom du Seigneur Jésus ». Les mots employés nous identifient littéralement avec le Christ. J'aime cette citation de John Stott. Il est tout simple, mais tellement vrai. Être chrétien implique une identification vitale et personnelle avec Jésus-Christ et une union avec lui est considérablement exposée dans notre baptême. C'est pourquoi je dirais clairement et sans enjambage que pour tout disciple du Christ qui entend ces paroles et qui n'a pas été baptisé, vous vivez contrairement au modèle du Nouveau Testament. C'était initial. Ce n'était pas quelque chose dans lequel vous avez grandi. Se repentir et être baptisé. Ceux qui ont été reçus ont été baptisés. Cela n'aura pas de sens si on disait, « Eh bien, je ne veux pas être baptisé. Comment pouvez-vous être un chrétien ?» et ne pas vouloir être identifié avec le Christ, et en particulier à la lumière de nos frères et sœurs du monde entier. La première fois que j'ai rendu visite aux églises de maison en Asie, j'ai enseigné sur le baptême, et deux croyants n'avaient pas été baptisés. Ils sont venus vers moi et m'ont dit, « Nous n'avons pas été baptisés. » J'ai dit, « Eh bien, vous avez besoin d'être baptisés. » Alors ils ont dit, « D'accord, et nous l'avons organisé. » Ainsi, ces églises de maison se sont réunies et nous étions sur le point de les baptiser. Je leur ai parlé du baptême et j'ai pensé, je leur ai bien appris tout ce que la Bible enseigne sur le baptême, mais j'ai appris beaucoup plus moi-même 2 minutes après. Quand ils ont amené ces deux hommes devant l'église de maison, ils leur ont demandé leur confession de foi. Ils ont partagé leur confiance dans le Christ. Ensuite, ils leur ont posé une question de plus. « Êtes-vous prêt à être baptisé aujourd'hui en sachant que cela peut vous coûter la vie ?» Le premier homme était un adolescent. Il a dit « Peu importe ce qu'il en coûte, je veux être baptisé. » Le deuxième type, un type plus âgé, a déclaré « J'ai déjà tout sacrifié pour suivre Jésus-Christ. Je veux être baptisé. » Donc, ces deux sont baptisés. Et nous ne devons pas traiter le sujet du baptême avec des involtures. Ceci est important. C'est notre identification avec Christ, mais pas seulement avec le Christ. Nous avons parlé de la façon dont nous sommes membres de la nouvelle communauté et le baptême est une déclaration que nous appartenons les uns aux autres. Je veux vous montrer que le baptême est un devoir principal de l'Église locale, une fonction de base. C'est quelque chose que l'Église fait et c'est quelque chose que l'Église est, un corps de croyants baptisés. Les questions. Maintenant, il y a une variété de questions au sujet du baptême. Nous n'avons pas un seul passage qui nous donne un traitement systématique du baptême, et alors je veux que nous examinions 5 questions concernant le baptême, que nous regardions ce que l'Écriture enseigne sur le baptême. Pourquoi les chrétiens sont-ils baptisés? Tout d'abord, nous suivons l'exemple du Christ dans Matthieu 3. C'est ce que Jésus a fait. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, les versets 13 à 17. Il nous montre d'une manière puissante son identification avec nous. Même s'il n'avait pas de péché, le baptême était l'image de la repentance et donc nous suivons l'exemple de Christ. Nous obéissons au commandement du Christ. Le livre des Actes nous dit de se repentir et d'être baptisé. C'était un ordre. Jésus dit à la fin du livre de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Comment allez-vous faire cela et dire aux autres d'être baptisés si vous n'avez pas été baptisés? Comment allez-vous obéir à la grande mission lorsque vous désobéissez et à ce que disent les autres de faire? Cela n'aurait pas de sens. C'est une contradiction. C'est une question d'obéissance. Troisièmement, quand nous sommes baptisés, nous nous unissons avec le corps du Christ. Recherché dans Éphésiens 4:4. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Maintenant, certains chercheurs ne pensent pas que cela parle du baptême physique. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais voici le point que je veux partager. Dans les évangiles et le livre des Actes, et dans tous les épîtres, tous ceux qui suivaient le Christ ont été baptisés. 1 Corinthiens 12 et 13 dit, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce n'est même pas une question. Il n'existe pas dans le Nouveau Testament des croyants non baptisés. C'est pour cela que nous sommes baptisés. L'exemple de Jésus. Son commandement est « Nous nous unissons avec le corps du Christ ». C'est l'Église qui dit « Quand quelqu'un est baptisé, nous voyons que c'est quelqu'un qui a mis sa confiance dans le Christ et nous affirmons que nous sommes en communion avec lui. Elle dit « Oui, j'ai confiance dans le Christ, j'ai été baptisé moi aussi. » C'est bon. Quelle est la signification du baptême? Premièrement, et c'est important, c'est une célébration de la grâce du Christ. Romains 6, les versets 5 à 10, est l'image du baptême. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort a quitté le péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. car il est mort, et si pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Romains 6, les versets 5 à 10. C'est une explication de comment le Christ est mort sur la croix à notre place. Il est ressuscité des morts comme notre Sauveur. Et c'est notre identification avec lui par le baptême. C'est une illustration de l'évangile du Christ. Le baptême n'est pas votre salut, mais c'est une image de votre salut. C'est essentiel. Si, appelés par la grâce de Dieu, par la foi en Christ, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes baptisés comme enfants de Dieu. C'est une illustration de l'évangile du Christ. Lorsque nous entrons dans l'eau, c'est une image d'identification à sa mort. Lorsque nous sortons de l'eau, c'est une image de la participation à sa résurrection. Lorsque vous êtes baptisé, vous n'allez pas rester sous l'eau parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti, donc vous aussi. C'est l'image qui est affichée à la fois que quelqu'un est baptisé. C'est l'Évangile. C'est une célébration, une illustration, et c'est une proclamation de la gloire du Christ. C'est Colossiens 2, 11. C'est une belle image de la façon dont le Christ a pris nos péchés. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de vos chairs, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Colossiens 2, les versets 11 à 15. Il a fait un spectacle en public du péché et il l'a vaincu sur la croix. C'est une déclaration dans l'Église et même au-delà. C'est la signification du baptême. Comment les chrétiens sont-ils baptisés? C'est là que vous allez obtenir des réponses différentes selon les églises. Et j'imagine qu'il y a même une variété de pratiques représentées parmi les personnes qui font cette étude. La réalité, c'est qu'il y a de grands héros de la foi dans ma propre vie qui seraient en désaccord avec moi sur ces choses. Donc, je veux humblement mettre cela devant vous. Je ne dirais pas cela si je ne pensais pas que c'est ce que l'Écriture enseigne. Mais en même temps, c'est un de ces endroits où il y a certainement de la place pour des opinions différentes. Ce n'est pas une question pour laquelle les chrétiens disent « Vous êtes chrétien si vous croyez de cette façon. Si vous ne le croyez pas, vous n'êtes pas chrétien. » Donc, je suis convaincu, pour répondre à cette question, le mode le plus biblique du baptême est l'immersion. Ce mot grec, littéralement « baptizo », signifie « immerger, plonger ». Voilà comment Jean a obtenu son nom, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il a fait. Regardez cela de plusieurs façons différentes. Nous l'avons vu dans Matthieu 3, Marc 1. Il a été baptisé par Jean dans le Jourdain. Et quand il sortit de l'eau, il n'a pas reçu quelques gouttes sur la tête. Il n'a pas reçu une tasse pleine d'eau sur la tête. Il était dans l'eau et il est sorti de l'eau. Nous voyons le modèle des dirigeants de l'Église primitive dans Actes 8. Un exemple est l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé? Philippe ne va pas remplir une tasse. Il descend dans l'eau, l'eunuque est baptisé, puis il sort de l'eau. Actes 8, les versets 36 à 38, dit « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Acte 8, 36 à 38. C'est l'image de l'Évangile, c'est l'illustration de l'Évangile. Nous nous identifions à la mort et à la résurrection du Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 4, c'est l'image d'immersion qui est là. Je ne prétends pas avoir toute la vérité à ce sujet. En même temps, je pense qu'il y a un bon précédent biblique pour nous convaincre ici. Le mode biblique du baptême est l'immersion. Qui doit être baptisé? C'est un autre domaine où nous avons un avis divergent, en particulier avec nos frères et sœurs presbytériens. Je crois que l'Écriture enseigne clairement que les seules personnes qui doivent être baptisées sont tous ceux qui sont nés de nouveau. Le mot-clé étant « de nouveau » et pas seulement « né ». C'est évidemment là où la distinction pourrait mentir. Là où vous mettez l'accent, c'est la clé. Encore une fois, c'est là que les héros de la foi ont préconisé le baptême des enfants sur une variété de bases différentes. Je ne pense pas que je puisse représenter fidèlement une image du baptême des bébés, mais la réalité est que je pense que le témoignage de l'Écriture est clair, que le baptême est une déclaration du fait que vous apparteniez à Christ, que votre cœur a été changé et que la régénération s'est produite. Écoutons Colossiens 2, les versets 11 et 12. En lui aussi vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps et de la chair. La circoncision du Christ, ensevelie avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Colossiens 2, 11 et 12. Même si les paramètres avec l'ancienne alliance et la circoncision sont souvent utilisés comme une base pour expliquer pourquoi le baptême des enfants a lieu, que le baptême est comme la circoncision dans l'ancienne alliance et comment ils sont liés, je pense que la réalité est que dans l'ancienne alliance, la circoncision implique la naissance physique dans une communauté physique. Là où je pense qu'il y a un parallèle, je pense que c'est à quoi Paul fait référence, et que le baptême de la Nouvelle Alliance suit la naissance spirituelle dans une communauté spirituelle. Le baptême est un reflet de la naissance spirituelle et ce qui se passe par le travail souverain de la grâce de Dieu, de l'Évangile, dans nos cœurs. La régénération spirituelle précède l'immersion physique. La démonstration externe suit la transformation interne. C'est alors que nos cœurs ont été changés. Ce qui est évident ne peut pas arriver à un bébé. Nos cœurs ont été changés lors de notre baptême. Je pense évidemment qu'il est bon et sain que les parents disent « Nous voulons que nos bébés soient élevés avec le soutien et la nourriture spirituelle de l'Évangile du Christ dès le début. » Donc, je ne dirai pas que ce n'est pas sain, mais je pense que nous confondons l'image du baptême quand nous le faisons pas après la conversion de quelqu'un qui met sa confiance dans le Christ. Quand les chrétiens devraient-ils être baptisés? C'est l'image dès qu'ils mettent leur confiance en Jésus pour le salut. Il y a un certain nombre de cas dans les actes, lisons-les ensemble. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les grands signes et miracles qu'il produisait. Acte 8, les versets 12 et 13. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char, tous deux descendirent dans l'eau, Philippe aussi, ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Actes 8, 36 à 38. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Actes 9, verset 18. Alors Pierre reprit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester là quelques jours. Actes 10, 47 à 48. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Actes 16, verset 15. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Actes 16, 33. Pourtant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent et furent baptisés. Acte 18, 8. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Acte 22, 16. Les croyants ont été baptisés et nous voyons, tout d'abord, que ce n'est pas quelque chose que vous faites encore et encore. Vous êtes baptisé et vous ne devez pas être rebaptisé. Vous êtes baptisé une fois pour toutes. Si vous avez été baptisé dans le sens biblique du terme ou seulement arrosé avec un peu d'eau, ou si vous n'étiez pas un disciple du Christ à ce moment-là et que vous avez été baptisé par immersion plus tard, la réalité est que si vous vous faites baptiser plusieurs fois, cela ne sert à rien. Ce n'est pas plus qu'une petite séance de baignade. Il est une chose que je voudrais ajouter. Je dois admettre dès le début que je n'ai pas nécessairement pris un passage de l'Écriture pour vous parler de ce sujet, ce qui devrait soulever toutes sortes de drapeaux rouges dans votre esprit. Mais je vais quand même tenter le coup. Je voudrais ajouter que dès le moment où nous pouvons le plus judicieusement témoigner de notre salut, nous devons être baptisés. Voici pourquoi je dis cela. Je perçois un danger potentiel dans notre culture et d'autres cultures comme les nôtres, qui sont majoritairement chrétiennes. Chaque cas particulier qui concerne le baptême que nous voyons dans le Nouveau Testament, dans tous les passages, dans les actes, implique un adulte. Certes, nous voyons des familles étant baptisées, mais les âges n'ont pas été communiqués. Toutefois, chaque cas spécifique implique un adulte dans un contexte non chrétien où il était risqué de passer publiquement par le baptême. Je pense que nous devons être très prudents dans notre culture et les cultures comme la nôtre quand il s'agit d'enfants dans une zone où c'est socialement acceptable d'être baptisé. Que nous n'influencions pas nos enfants en leur donnant un faux espoir de leur salut. C'est une façon d'obtenir l'approbation dans notre société d'être baptisé. Et c'est facile, en particulier quand nous faisons ce que nous appelons l'évangélisation des enfants, d'utiliser des termes non bibliques. Vous pouvez amener les enfants à dire une variété de choses différentes, et je pense qu'il est sage pour nous, en tant que pasteurs et parents, de faire preuve de discernement quand il s'agit d'une culture ou d'une communauté où le baptême est accepté et même encouragé. Avec un enfant qui ne peut pas encore comprendre pleinement l'Évangile, et c'est difficile à définir, nous devons être prudents. Je pense tout simplement qu'il faudrait avancer avec un peu de sagesse, et je crois que l'Écriture nous oriente vers ce genre de sagesse. Nous avons cette image de baptême. Quand vous réfléchissez à ce sujet, pensez à une cérémonie de mariage. Je me souviens de mon mariage, il y a 10 ans. Je n'oublierai jamais le moment où j'ai vu le visage de ma femme pour la première fois le jour de notre mariage. Et je venais de réaliser, oui, elle est à moi. C'est une image et une foule de gens étaient assis là pour dire « Oui, elle est à toi !» C'est témoigner à tout le monde qu'elle est à toi. Et c'est aussi ce que le baptême représente. C'est une image publique destinée à l'être. Ce n'est pas une affaire privée quand l'Église baptise quelqu'un. L'Église baptise en disant « Oui, il appartient au Christ, il appartient au Christ !» Et vous dites « Oui, j'appartiens au Christ, il est mien !» Je m'identifie avec lui, avec sa mort. Je suis mort au péché, je m'identifie avec sa vie, sa résurrection, et je vis en lui. Et l'Église se réjouit ensemble. Pourquoi ne pas en faire une priorité dans l'Église? C'est bien, nous devons le faire. C'est pourquoi c'est une activité fonctionnelle, non négociable et essentielle dans l'Église. L'Église enseigne. L'Église enseigne. Très bien, nous avons parlé de deux choses à ce jour que l'Église fait. L'Église évangélise et l'Église baptise. Maintenant, nous voyons également que l'Église enseigne. Acte 2, verset 42 dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » J'aime ce petit bijou d'os Guinness. Si Jésus est le chef de l'Église et dont la source est le but de toute vie, une véritable croissance n'est possible que dans l'obéissance à lui. Inversement, si l'Église se détache de Jésus-Christ et de sa parole, elle ne peut pas croître, même si elle est active et efficace dans d'autres domaines. Il y a une tendance aujourd'hui de minimiser l'enseignement de la parole, pour dire que ce n'est pas si important que cela. Les gens disent que l'enseignement de la parole est facultatif et cela suffit à discuter ensemble et tout simplement de faire des arts. J'ai assisté à un séminaire et il y avait un gars qui donnait une présentation expliquant que l'enseignement et la prédication dans l'Église étaient vieux jeu. Plus nécessaire ni important. Il a donné tout ce discours sur la façon dont la musique a remplacé l'enseignement. J'aurais dû dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait parce que je pensais que ce serait un peu arrogant. Mais je voulais lever la main à la fin de cet exposé d'une heure et lui demander « Si cela était vrai, alors pourquoi n'a-t-il pas chanté sa conférence ?» Je me posais la question « Dois-je dire quelque chose ?» Non. Je suis juste un étudiant. Je ne dois pas intervenir. Mais c'est le travail de l'Église depuis 2000 ans d'enseigner. Je ne pense pas que nous ayons tout à fait atteint le zénith de l'histoire que cet homme a racontée. L'Église est une communauté formée par la parole de Dieu. Tout au long des Écritures et de l'histoire, nous voyons la puissance de la parole parlée. Bien que la technologie affecte beaucoup de ces choses, l'Église enseigne parce qu'elle est une communauté formée par la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par le Christ à travers sa parole. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ainsi que nous sommes sauvés. Nous ne faisons pas notre propre chemin vers le salut. L'Écriture nous montre comment il faut faire pour être sauvé. Non seulement sauvé, mais nous sommes sanctifiés par la parole. De Timothée 3, les versets 16 et 17, nous dit que « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. » La Bible est le livre qui nous est donné par son enseignement. Nous grandissons pour devenir semblables à l'image du Christ. Nous sommes dévoilés et corrigés, instruits dans la justice, et nous sommes les serviteurs de la parole. Nous prêchons la parole, dit Paul. C'est central dans l'Église, c'est un ordre dans l'Église, un impératif. prêcher et enseigner la parole. 2 Timothée 4, les versets 1 à 5. Je t'abjure, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprends, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. L'Église est une communauté centrée sur la parole de Dieu. Ainsi, l'Église est une communauté formée par la parole de Dieu, et l'Église est une communauté centrée sur la parole de Dieu. Pourquoi la Bible est-elle si importante dans l'Église? L'Église vénère la magnitude de la parole de Dieu. Elle reconnaît l'importance de la révélation de Dieu. Dieu se révèle comme la parole. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce n'est pas marqué « au commencement était la chanson » ou « au commencement était le drame » ou « au commencement était la musique ». Au commencement était la parole. C'est la révélation. Jésus est la communication de Dieu dans le monde, sa parole. Dans 1 Samuel 3, la Bible nous raconte une histoire dans la vie de Samuel. Il n'y avait pas de vision fréquente du Seigneur. Dieu suscita un prophète, et la Bible dit « L'Éternel continuait d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de l'Éternel. » 1 Samuel 3, 21. Ainsi, Dieu se révèle comme la parole, et aussi Dieu se révèle à travers la parole. Ce que nous voyons de la grandeur de Dieu nous est révélé par la puissance de sa parole tout au long de l'Écriture. La création est formée par sa parole. Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et il calme la tempête par sa parole. Marc 4, verset 39. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent cessa et un grand calme se fit. Il parle et les vagues obéissent. Les fièvres baissent. Luc 4, verset 39. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et se mit à les servir. Les démons sont chassés par sa parole. Marc 1, 25. Jésus le menaça, « Tais-toi, sors de cet homme !» Les péchés sont pardonnés. Marc 2, 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Les aveugles peuvent voir, et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Luc 18, 42, les morts reviennent à la vie par sa parole. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le. » et laissez-le aller. Jean, chapitre 11, les versets 43 et 44. L'univers tout entier répond à la parole de Dieu. Pensez-y. Dieu dit dans Ésaïe 40, « À qui me comparez-vous ? Pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? C'est celui qui fait sortir les armées au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une qui fasse défaut. » Ésaïe 40, 25 et 26. Les étoiles dans le ciel sortent chaque nuit par la parole de Dieu. Pensez-y. Dans notre galaxie, il y a près de 100 milliards d'étoiles. Notre galaxie est l'une des millions de galaxies remplies avec des centaines et des milliards d'autres étoiles. Seul notre Dieu le fait sortir une par une, et il les appelle par leur nom. Quand il parle, elles brillent. Voici une citation que j'ai lue il y a très longtemps et qui me rend humble. Charles Misner est un spécialiste scientifique en théorie relationnelle. Il avait étudié les œuvres d'Einstein. Je partage avec vous son avis sur Einstein. La conception de l'univers. Magnifique et ne doit pas être pris pour acquis. En fait, je crois que c'est pourquoi Einstein avait si peu d'estime pour les religions organisées, bien qu'il me semblait être un homme fondamentalement très religieux. Il doit avoir regardé ce que les prédicateurs disaient à propos de Dieu et estimait qu'il blasphémait. Il avait vu beaucoup plus de la majesté de Dieu qu'eux, car eux ne parlaient pas beaucoup de ce qui était réel. J'imagine qu'il sentait tout simplement que les religions n'avaient pas le respect approprié pour l'auteur de l'univers. Je ne veux pas qu'on puisse dire sur moi et sur mon enseignement de la parole « il ne parlait pas de ce qui est réel ». C'est pourquoi cette parole est importante dans l'Église, parce que la magnitude de cette parole, de ce que Dieu a dit, ne peut être surestimée. L'Église connaît la gravité de la proclamation de l'homme. Nous avons lu dans Acte 2, Pierre se leva, éleva la voix et s'adressa à la foule. Le langage est sérieux, grave. Écoutez 2 Corinthiens 4, ces trois versets sont incroyables ensemble. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 6. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Vous voyez, le Dieu de ce monde, qui aveugle les pensées dans le verset 4, est le vrai Dieu faisant briller une lumière dans le cœur au verset 6. Mais au milieu, nous lisons « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons. » Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Aujourd'hui, j'entends des gens dire « Nous devrions avoir des conversations informelles dans l'Église. Pas besoin d'apprendre. » Évidemment, nous voyons ce léger enseignement, soi-disant, qui vient dans l'Église, qui est rempli par des animations et des blagues et toutes ces choses. N'avons-nous pas conscience qu'il existe un vrai Dieu dans ce monde qui fait briller sa lumière dans les cœurs et qui désire que tous puissent jouir de la joie éternelle dans les cieux et qu'il y a un faux Dieu avec un petit dé, Dieu dans ce monde, Satan, qui veut que tous brûlent en enfer et au milieu, nous prêchons Christ. Cela ne laisse pas de place pour des conversations informelles. Non, c'est sérieux. Nos vies dépendent de notre écoute de la parole de Dieu.
Vous venez d'écouter un message de la série d'études de la Bible intitulée « L'Église secrète » du docteur David Platt, pasteur de l'église Brook Hills aux USA.